RFI, 7h30 à Paris, 6h30 à Alger et Kinshasa. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour.
Un large volet diplomatique dans cette édition africaine.
Oui, pour mesurer d'abord l'étendue des secousses dans la vague de froid entre l'Algérie et la France, les deux pays qui étaient en train de reprendre contact bien au-delà du seul niveau politique. Tout est de nouveau suspendu. La diplomatie encore, celle que Fornia Singbé va s'employer à mettre en œuvre, le président togolais, médiateur de l'Union africaine pour la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, il s'est rendu hier pour quelques heures à Kinshasa. Cette crise qui se fait sentir jusque dans les stades de foot européens, mais qu'à cela ne tienne, le PSG renouvelle son partenariat avec Visit Rwanda, la vitrine touristique de Kigali, et cela malgré les critiques. La diplomatie toujours entre le Niger et le Nigeria cette fois, le ministre nigérian des Affaires étrangères était à Niamey. L'heure est désormais aux embrassades et aux œillades appuyées. RFI au FEMUA, enfin nous sommes à Abidjan pour le Festival des musiques urbaines. La Guinée, invitée d'honneur cette année, soirée de gala hier soir. Derrière les remontrances diplomatiques, c'est donc tout un processus de normalisation qui se retrouve grippé. L'Algérie dit prendre acte du renvoi de 12 de ses agents diplomatiques ainsi que du rappel pour consultation de l'ambassadeur de France. Décision que nous regrettons, dit Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Il y a ces rappels de diplomates, ces imprécations médiatiques de part et d'autre, mais pas uniquement. Alger et Paris étaient en train de reprendre langue sur plusieurs autres sujets, mémoriels, économiques, Pierre Firsion, panne sèche générale.
Tout est à nouveau à l'arrêt entre les deux pays. La visite à Alger du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, pour tenter de relancer la coopération judiciaire, n'est désormais plus à l'ordre du jour. Également stoppées les initiatives récemment lancées par les acteurs économiques, Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur CMA-CGM, a, selon le site Africa Intelligence, renoncé à se rendre mardi à Alger. En sens inverse, le CREA, un syndicat patronal algérien, a préféré annuler sa venue à Paris début mai. On met également la commission mixte d'historiens était censée reprendre ses travaux. La partie française de la commission avait, selon nos informations, envoyé une invitation officielle à son homologue algérienne, avec pour objectif la tenue d'une réunion à Aix-en-Provence pour parler archives et restitution de biens historiques. Mais l'initiative est désormais à l'arrêt, les historiens algériens n'ayant pas répondu à cette invitation. Sur tous les fronts, le dialogue est donc rompu. Pourra-t-il reprendre à court ou moyen terme? C'est le souhait formulé par Jean-Noël Barrot, une reprise des discussions qui nécessitera certainement du temps, tant la poussée de fièvre aura été soudaine et violente.
Et parmi les dossiers qui grippent la relation bilatérale, celui de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien condamné à 5 ans de prison en Algérie. Le Premier ministre français recevait hier plusieurs membres de son comité de soutien. François Bayrou parle d'une situation insupportable en disant espérer que l'écrivain puisse retrouver sa liberté et son intégrité. Quelques heures à Kinshasa et une première rencontre. Fornia Singbé s'est rendu hier dans la capitale de République démocratique du Congo. Le président togolais, nouveau médiateur pour l'Union africaine dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. Ce conflit face au groupe armé de la FCM-23 soutenu par le Rwanda. Rencontre discrète, Pauline Azidi, 2 heures de huis clos avec son homologue Félix Tshisekedi.
Le président togolais, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, est arrivé vers 16h30 à l'aéroport de Ndjili. Il s'est directement rendu à la cité de l'OUA sur les hauteurs de Ngaliema, où se trouvent les bureaux du président Tshisekedi pour une première rencontre entre les deux hommes depuis la nomination officielle de Fornia Singbé comme médiateur de l'Union africaine. Un tête-à-tête de 2 heures dont rien n'a filtré, confie une source à la présidence congolaise. Pas de déclaration à la sortie. La RDC prend acte de cette désignation et on espère que cela va rapidement mettre fin au cycle de violence, fait-on savoir à Kinshasa. Fornia Singbé a quitté la capitale dans la soirée. C'était surtout une prise de contact pour celui qui hérite d'un dossier complexe où il n'est en plus pas le seul à s'occuper de la médiation, puisque le Qatar, après avoir organisé en mars une rencontre entre les deux présidents congolais et rwandais, anime les discussions entre le M23 et Kinshasa, et que les deux régions est-africaine et afrique-australe ont-elles nommé 4 co-facilitateurs pour suivre ce dossier. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Dans l'est de la RDC encore, les tensions vont croissant entre le M23 et la MONUSCO à Goma. Le groupe armé a déjà accusé les soldats de l'ONU d'avoir pris part aux violences de la fin de semaine dernière, ce que dément fermement la MONUSCO. MONUSCO. Désormais, les miliciens exigent de signer avec cette mission un protocole d'accord, un texte qui encadrerait strictement ce que les casques bleus ont le droit de faire ou non dans les zones contrôlées par le M23, sauf que, à l'heure actuelle, la mission de l'ONU n'a pas le droit de signer un tel document. Patient Ligaudy nous l'explique sur RFI.fr. On en vient à cette autre conséquence du conflit sur les terrains de foot. Cette fois, le Paris Saint-Germain renouvelle, malgré les critiques, son partenariat commercial avec Kigali. Ce logo visite Rwanda floqué sur certains maillots des joueurs parisiens. Plusieurs associations demandaient au club de mettre fin à cette collaboration à cause du rôle de Kigali dans la guerre. Non seulement elle continue pour 3 ans de plus, Lucie Mouillot, mais elle gagne même en visibilité.
Le contrat actuel devait s'achever à la fin de cette année, mais le partenariat lancé en 2019 est renouvelé pour 3 ans supplémentaires. Une collaboration qui a, je cite, « contribué de manière significative à positionner le Rwanda comme une destination de premier plan pour le tourisme et l'investissement », affirme dans un communiqué le directeur du Rwanda Development Board, Jean-Guy Africa. Un contrat prolongé malgré la pétition lancée par des supporters fin janvier, 75 000 signatures recueillies pour demander l'arrêt de ce partenariat face à l'implication de Kigali dans le conflit en RDC. En février, la ministre congolaise des Affaires étrangères écrivait également au club parisien, questionnant la moralité de ces accords. Les critiques n'avaient pas empêché le PSG de continuer la promotion de son sponsor, notamment dans une vidéo début avril où des joueurs vedettes servaient du café rwandais à leurs fans. Dans le communiqué de ce mercredi, le club annonce une visibilité accrue pour Visit Rwanda, dont le logo apparaîtra notamment sur la manche des maillots pendant la Coupe du Monde des clubs organisée cet été aux États-Unis. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Kigali, où il est 7h37. Une heure de moins à Niamey, le Niger et le Nigeria qui marquent un franc réchauffement de leurs relations. Le chef de la diplomatie nigériane a été reçu hier par son homologue et par le premier ministre de transition à Niamey. Il s'agit de la première visite au niveau gouvernemental d'un officiel du Nigeria chez son voisin du Nord depuis le coup d'État de juillet 2023. Les relations s'étaient alors considérablement dégradées. Abuja était le fer de lance de l'option militaire que la CDAO avait un temps envisagée. Il n'en est plus rien. Magali Lagrange, le texte qui boucle la visite est un étalage de chaleur diplomatique.
Relations chaleureuses, amicales, de fraternité et d'amitié, selon le communiqué commun, c'est dans la ferveur et l'enthousiasme que le ministre nigérian des Affaires étrangères a été accueilli à Niamey. Un ton qui contraste avec la méfiance ouvertement affichée par les autorités nigériennes envers le grand voisin du Sud depuis le coup d'État. Contact renoué, les deux pays qui partagent 1500 km de frontières listent désormais les nombreux domaines dans lesquels ils veulent resserrer leurs liens. Économie et sécurité notamment, même si le Niger a quitté la CDAO et la force multinationale mixte active dans la région du lac Tchad. Redynamisation de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, questions énergétiques, construction du gazoduc transsaharien, Niamey et Abuja veulent aussi unir leurs forces pour combattre le terrorisme. Les deux ministres se donnent rendez-vous au Nigeria pour une prochaine visite dont la date n'est pas encore fixée. Le chef de la diplomatie nigériane n'a en revanche pas vu le général Abdourahmane Tchiani, à qui il apportait un message du président Bola Tinubu, message qu'il a finalement transmis au premier ministre nigérien Ali Mahaman Laminzen.
Magali Lagrange, dernière visite enfin dans ce journal, celle que le ministre des Affaires étrangères sud-africain Ronald Lamola vient de conclure 48 heures en Russie. Il s'y est entretenu avec son homologue Sergueï Lavrov. Le ministère sud-africain souligne, je cite, les liens diplomatiques et durables qui existent entre les deux pays. La guerre en Ukraine était évidemment au cœur de leurs échanges. Pretoria réaffirme la nécessité de voir une cessation immédiate des hostilités pour ouvrir la voie à une solution négociée. L'Afrique du Sud qui continue d'ailleurs d'afficher sa volonté de dialoguer tant avec Moscou qu'avec Kiev, puisque la semaine prochaine, le président ukrainien doit se rendre en visite officielle dans la nation arc-en-ciel. Une nouvelle alerte sur l'état des libertés publiques en Tunisie. Elle émane cette fois de l'organisation Human Rights Watch, qui publie un rapport centré sur les détentions arbitraires des citoyens arrêtés, détenus, pour des motifs parfois purement politiques et que aucune preuve ne vient étayer. L'ONG en parle comme d'un moyen de faire taire toute personne perçue comme critique du gouvernement. Le rapport passe au crible le cas particulier de 22 citoyens. Mais Ahmed Benchamis, chercheur pour Human Rights Watch, rappelle que le nombre de détenus politiques est au moins 2 fois plus élevé.
Aujourd'hui, plus de 50 personnes sont détenues pour des motifs politiques en Tunisie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'opposants au président Saïd qu'ils jettent en prison pour des motifs qui sont absolument pas substantiés, des accusations d'atteinte à la sécurité. Ce sont des procès politiques et c'est ça que nous documentons principalement. C'est que depuis sa prise de pouvoir, en 2021, quand il a fait ce coup d'état institutionnel contre le régime duquel il était président, nous avons constaté que la répression de toute dissidence, en fait, s'est extrêmement intensifiée et nous documentons le cas de 22 personnes en particulier qui sont des opposants, qui sont détenus arbitrairement et qui font l'objet de poursuites non justifiées. Et notamment dans le cadre du procès dit du complot. Alors c'est un procès qui a fait couler beaucoup d'encre en Tunisie parce que les autorités et le procureur y accusent une quarantaine de personnes d'être toutes de mèche pour faire tomber le président Saïd, voire attenter à sa vie. Alors, les preuves de ça, on demande encore à voir. Mais par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que le procès a été émaillé de violations des normes d'un procès équitable.
Ahmed Benchamis, chercheur pour Human Rights Watch, propos recueillis par Ouda Ibrahim. Nous sommes enfin en Côte d'Ivoire pour refermer ce journal. Quoique, Abidjan soit en train de prendre des airs de Conakry. Le FEMUA, ça y est, bat son plein, le Festival des Musiques Urbaines. Ben Danoumabo, 17e édition de ces rencontres, qui sont bien plus que des concerts d'ailleurs. Chaque année, le festival s'emploie à développer un thème en particulier, et en l'occurrence pour 2025, il s'agit du civisme et de la sécurité routière. Le FEMUA, c'est aussi la tradition d'un pays invité d'honneur, et la Guinée donc, qui a eu droit à sa soirée spéciale à l'Institut français d'Abidjan. Guillaume Thibault y est notre envoyé spécial.
Puissance et volupté. Lorsque la Guinée présente ses plus beaux atouts, la danse, le conte et la musique rayonnent. Et la voix de ses acteurs, comme celle de Souleymane Bangoura, alias Soul Bang, prix Découverte et Défi en 2016, résonne.
C'est une immense fierté. Ça nous plonge encore dans la joie. Ça nous fait comprendre à nouveau que la musique est toujours un vecteur d'union.
Ancrée dans cette soirée, la communauté des griots, avec notamment le maître de la kora, Bassi Soko, ému de représenter son pays, la Guinée, au FEMUA.
Ça me fait plaisir vraiment d'être là. Magic System qui invite la Guinée qui parraine le festival. La musique d'abord mandingue, ça fait lien entre deux peuples.
Cette belle soirée a aussi mis en avant les femmes, les danseuses et la griotte Namamba Kanté, qui sait que sa musique a un rôle diplomatique, qu'elle rôtisse les liens séculaires entre la Guinée et la Côte d'Ivoire.
Il y a eu des tensions entre ces deux pays. Donc aujourd'hui, la musique renforce vraiment ce tissu, ces liens diplomatiques entre ces deux pays. Donc la musique n'a pas de frontières.
Guillaume Thibault, Abidjan, RFI.
Et ce sont sur ces notes guinéennes que se referme ce journal. À Abidjan, comme à Conakry, les 5h43, Andréane Mellard, vous reprenez quand vous le souhaitez.
Merci Édouard Dupénoat et vous revenez dans un petit peu moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité africaine. Merci à vous, 7h43 à Paris, c'est RFI Matin que vous écoutez.